Maintenant, pour terminer cette séance de la matinée, nous avons Catherine Scova, est associée de direction avec le Conseil canadien du port, et on lui a demandé de parler d'une chose difficile, le bien-être animal en transition par rapport au système d'isolement. Merci, Catherine, de votre présence avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est curieux que la discussion sur le code du pas suive la discussion sur la douleur, et je ne m'en sais quoi le parallèle, mais je vais revenir au travail du CNSRE et le travail avec les codes. Et je voudrais vous donner une perspective sur ce qu'on fait dans le code du pas par rapport au comité d'élaboration des codes et aussi dans le débat un peu plus public. Fred parlait hier des disc jockeys et moi je fais partie des disc jockeys et des politiques, alors je dois vous présenter ce qui se passe dans le code des. On dit que je suis une fille de la ville, je ne suis pas d'une ferme, j'ai étudié plutôt les sciences économiques, mais je préfère qu'on me voit comme une voyeur. J'ai suis heureuse de faire partie des membres qui font partie de l'élaboration du code, mais j'entends tous les commentaires des producteurs par rapport au code sans qu'ils soient là. Et je travaille dans un bureau national et je comprends les perspectives plus générales. Et c'est ces perspectives que je voudrais vous présenter aujourd'hui, toutes ces perspectives qui rendent les choses moins claires. Quelques antécédents. Je suis au Conseil canadien du port et les membres sont... C'est le Conseil canadien du port qui a demandé un code en 2009. Nous avons commencé à travailler en 2010, après 2 ans et demi de discussion. L'ébauche du code a été lancée au public. On a reçu 4 700 commentaires, plus que dans le cadre d'autres codes, et c'est plus que la quantité totale de commentaires pour tous les codes ensemble. Il semble que c'est beaucoup, mais ce n'est pas un gros pourcentage de la population canadienne qui aurait répondu. On a un bon taux de réponse des producteurs de leurs associations, et c'est normal, mais ce sont des chiffres élevés. Ce n'est qu'un petit pourcentage de la population canadienne, mais il y a un engagement très fort dans l'élaboration du code. Tous les producteurs sont en train de regarder ce qui se passe. Nous avons déjà une évaluation des soins aux animaux, et les producteurs savent très bien que quand le nouveau code va être présenté, il sera évalué à la ferme. Le comité est en train de regarder les 4 700 commentaires maintenant pour trouver des façons d'aborder tous les commentaires. Alors, ça va être tout un processus que nous avons devant nous. Par rapport au principe du comité d'élaboration du code, il faut revenir là-dessus parce que c'est fondamental pour la prise de décision. Nous cherchons des choses qui conviennent aux animaux, mais qui fonctionnent pour les producteurs et qui sont acceptées pour la société plus large. Et nous avons une définition plus large, plus holistique du bien-être qui tient compte du fonctionnement biologique, est-ce que les animaux sont sains, les états affectifs et la vie naturelle, est-ce qu'ils sont capables d'avoir des vies raisonnablement naturelles? C'est très important. Dans le comité d'élaboration des codes, nous voulions comprendre les différentes perspectives. Nous avons tous nos propres préjugés. Cette diapositive a été présentée hier Il y avait le concept original avec les ronds au centre. Il y avait des ronds qui se chevauchaient. Et on va mettre le code dans ce cadre. Je ne sais pas, et c'est un des grands défis avec le code du port, pas tellement dans nos réunions, mais plutôt quand on commence à en parler en dehors du processus de l'élaboration du code, du côté des producteurs et avec les intervenants du milieu et les parties intéressées. Et c'est vraiment ce qui fait de la conversation quelque chose de très difficile quand on parle dans un certain milieu. Quand on reste dans le cadre, on parle de quelque chose, mais on ne parle pas avec les gens. Alors, je vais parler de trois défis. Quand j'ai commencé à préparer la présentation, j'en avais une dizaine, mais je veux réduire ça à quelque chose qui m'aiderait à faire la présentation. J'ai trois aspects ici. C'est un code axé sur un seul enjeu. Deuxièmement, c'est la complexité de cet enjeu. Et ensuite, c'est le besoin de trouver un juste équilibre. Le premier défi, c'est que c'est le logement détruit. C'était une question névralgique. Dans l'industrie, on savait très bien que ça allait être un aspect fondamental pour la discussion du code. Et c'est névralgique dans le comité d'élaboration de code, mais aussi en dehors du processus d'élaboration du code. Et c'est tout un défi pour le code parce qu'il s'agit d'un seul animal, la truie, quand il y a beaucoup d'autres animaux, et une seule liberté. Et on parle de la liberté de mouvement ou de pouvoir exprimer le comportement naturel. Le risque, ça réduit la valeur du reste du code. Nos codes sont comme tous les autres. On tient compte de tous les ports, tous les hébergements, tous les logements, toutes les pratiques. C'est un code très holistique, mais ça se réduit à définir son succès à partir d'un seul aspect. Et j'ai peur qu'on perde de vue tout le reste qui fait partie du code. Il n'y a pas beaucoup de controverses sur ces autres questions. Alors, c'est quoi la proposition par rapport au logement détruit? L'ébauche du code mentionne partir de la norme. C'est des stalles individuelles pour passer à un logement collectif. On parle de nouvelles installations pour 2014. Il y aura une conversion de toutes les installations pour 2024 et on mentionne l'utilisation des stalles pendant une période limitée, comme on a vu avec les directives de l'Union européenne. Alors, je vois deux choses ici. Ça donne une définition claire du logement collectif acceptable. On peut utiliser les stalles pendant un temps limité, mais le gros du temps, ce serait dans des groupes. Et ensuite, il y a une exigence pour les installations neuves et converties. Le comité a vu qu'il s'agissait d'un équilibre entre le bien-être et les principe du processus d'élaboration du code. Il y a eu des discussions avec les producteurs. Les producteurs ont parlé avec les gens de l'extérieur du comité, mais le processus est semi-confidentiel. On ne pouvait pas parler largement avec 7000 producteurs de porc. Alors, quand on a présenté le code aux commentaires publics, on voyait qu'il y avait beaucoup plus d'engagement dans toute la collectivité des producteurs de porc. On a vu des réactions très fortes aux documents proposés. Ça m'amène au prochain défi, c'est-à-dire la complexité autour de cette question de la du logement détruit. C'est intéressant. Il y a beaucoup de références à ce que je vais mentionner dans cette diapositive. Je veux illustrer quelque chose. La proposée, c'est de passer au logement collectif pour les tuer. C'est une chose, on regarde le style et on essaie de donner plus de liberté de mouvement. C'est très facile, c'est très clair et c'est très transparent. Mettre les salles dans des groupes. Mais de l'autre côté, il y a tous les problèmes pour qu'on passe à l'action, pour mettre ça en œuvre. Et vous allez voir que c'est très difficile. On en a parlé ce matin, la demande est très simple, mais la réaction est très compliquée. Comment est-ce qu'on peut avoir ce genre de débat dans sur une tribune publique? Et comment est-ce qu'on peut démontrer pourquoi l'industrie va faire face à tellement de défis pour faire ce changement? Je vais parler des défis pour les producteurs dans le logement collectif. On en a parlé dans les réunions du code, mais on en a parlé dernièrement parce que maintenant, on voit les propositions concrètes et on se demande comment on va le faire de façon logique. Je vais examiner ces complexités par rapport aux principes clés. Qu'est-ce qui est bon pour l'animal? Qu'est-ce qui fonctionne pour les producteurs et qu'est-ce qui est acceptable pour la société? On va commencer avec les porcs. Voici la théorie. D'abord, on voit la façon dont on a élevé les porcs au départ dans les groupes. Christelle a parlé de son travail avec son père et comment une tuile a attaqué. C'est l'expérience des producteurs. Ils ont été témoins de cette situation. Les tuiles peuvent être très agressives quand elles travaillent, quand elles sont en groupe. Il y en a qui sont blessés. Il y a la concurrence pour obtenir l'alimentation. Alors, l'industrie a décidé d'utiliser des stalles individuelles. C'est quelque chose qui s'est passé partout au monde parce qu'on pensait qu'on améliorait le bien-être de l'animal. L'alimentation est plus uniforme, il y a meilleure santé, il y a moins d'agressivité et il y a un conditionnement plus uniforme des tuiles. Mais maintenant, nous comprenons mieux le logement collectif et comment avoir le bien-être dans le logement collectif. Alors, on décide de retourner vers le logement collectif, mais les producteurs font face encore au fait qu'ils ont commencé à utiliser les stalles pour améliorer le bien-être. Si on peut maintenir tous les avantages qu'on avait dans les stalles, et si on peut rajouter les avantages de la liberté de mouvement et la possibilité d'avoir un contact social, c'est ça la situation idéale. Mais les producteurs nous disent, et c'est la réalité, c'est les gens qui travaillent tous les jours avec ces animaux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils connaissent des exemples où le déplacement en groupe collectif n'a pas amélioré le bien-être. Et même le rapport du comité scientifique dit qu'il est possible d'avoir le même producteur, une meilleure productivité dans les logements collectifs si le tout est bien conçu et géré. Mais il y a beaucoup de choses dont il faudrait tenir compte. C'est possible, mais les systèmes doivent être bien conçus et gérés. Les producteurs et d'autres, pas seulement les producteurs, mais beaucoup d'autres personnes dans l'industrie pensent que l'information n'est pas encore complète sur le maintien du bien-être, surtout quand on fait la conversion des installations déjà existantes. Peut-être qu'on pourrait avoir des résultats égaux, mais on pourrait aussi avoir des résultats qui sont moins convenables par rapport au bien-être de l'animal. Alors, est-ce qu'on est simplement en train de troquer certaines libertés? Ça, c'est la liste traditionnelle des libertés. Est-ce qu'on est en train de... est-ce qu'on va avoir plus de douleurs, plus de blessures? Ça, c'est vraiment ce qui les préoccupe, c'est cet échange de liberté quand les conversions et le déplacement et le logement collectif, que ce soit un nouveau système ou la conversion, il s'agit d'un système complètement nouveau avec de nouvelles approches de gestion dont on aurait besoin. Et ce n'est pas comme les stalles qui sont un seul système. Si on passe au logement collectif, il y a une combinaison complexe de systèmes d'alimentation, les revêtements de sol, la taille du groupe et la dynamique du groupe. Même la génétique pourrait jouer un rôle. Il faut choisir chaque élément et faire en sorte que le tout fonctionne bien ensemble. Et on a besoin de systèmes de gestion pour s'y ajuster et pour qu'on réussisse notre objectif. Nous savons que les conversions des installations existantes, c'est encore plus problématique parce qu'on doit mettre toutes ces combinations dans des installations qu'on a déjà. Chaque porcherie est unique. Et ça fait que la possibilité d'en arriver à une conversion est unique. On n'a pas toutes les informations actuellement. Ce n'est pas une pratique normalisée où nous n'avons pas encore assez de confiance pour qu'un producteur dise que oui, ça va bien fonctionner. Ils n'ont pas suffisamment d'informations. Ils n'ont pas confiance dans ça. Il y a un projet de logement de tuiles à l'échelle nationale qui va essayer d'obtenir ces informations, mais il nous reste du travail à faire. Et nous allons parler aussi des coûts. Il ne s'agit pas seulement d'un coût mineur supplémentaire. C'est très important. On a fait une analyse financière sur les propositions du Code et on a fait du travail au Québec et on est en train d'examiner, on est en train de voir que ça va coûter de 820 à 1155 par tuyau pour les coûts de transition. Les tuyaux doivent être déplacés quelque part. C'est un coût énorme pour notre industrie. Il y a beaucoup de producteurs qui vont dire qu'on est déjà passé par une situation financière très difficile. Nous ne pouvons pas demander des crédits supplémentaires aux banques. Les banques ne vont peut-être pas prolonger les crédits pour ce genre de projet parce que c'est un élément obligatoire du Code. Et il y a aussi quelque chose de très problématique pour l'industrie. Le partage des coûts, on parle avec les services alimentaires, mais il n'y a personne qui dit que c'est tellement important pour nous. On va trouver une façon de le financer. Si on pouvait avoir ce financement, ça se passerait du jour au lendemain, mais ce n'est pas ça qu'on voit. Ni dans ce domaine, ni dans d'autres. Le gouvernement peut aider dans la recherche et le développement, mais clairement, il ne veut pas tellement appuyer l'industrie dans ces genres de... Le gouvernement de l'Ontario peut gaspiller un milliard de dollars dans la gestion du gaz, mais on ne s'intéresse pas à ce qu'une industrie puisse vraiment faire ce genre de changement. On demande aux producteurs de faire ce genre de choses, mais il n'y a pas d'incitatif véritable pour qu'ils puissent avoir suffisamment de confiance pour faire ces investissements. Et on a entendu dire souvent dans le processus du Code qu'il y a beaucoup de producteurs qui ne resteraient pas dans l'industrie si ça devenait une obligation et s'intéresse personne de fermer des installations ici au Canada pour combler les lacunes avec l'importation. Ça nous amène aux attentes de la société. C'est ça qui me donne le plus de difficultés parce qu'il y a une attente très claire de la part des producteurs aussi. qu'ils sont en train d'élever du bétail. Alors, c'est quoi les attentes par rapport à la façon de traiter les animaux? Qui parle au nom de la société au complet et qui sait ce que la société juge acceptable? Nous savons qu'il y a un manque de lien entre les producteurs et les consommateurs et entre les producteurs et le grand public. Et qui sait véritablement qu'est-ce qui est acceptable pour l'élevage du bétail? On peut regarder ce que font les militants. Ils ont très bien réussi à parler de façon publique de cette question de la liberté d'un seul animal. Et ils sont très visibles et ils prétendent représenter la société, mais ils ne constituent qu'un petit pourcentage de la société. Il y a des détaillants et des restaurateurs au Canada qui font des déclarations sur l'élevage des animaux, sur leur point de vue sur les stalles. Est-ce qu'eux, ils représentent toute la société? Nous savons qu'ils font face à beaucoup de pression de la part des actionnaires et des campagnes des médias sociaux de la part des militants aussi. Est-ce qu'ils sont vraiment les représentants de la société?
Ce que Jeff a présenté ce matin, c'est vraiment très, très utile pour qu'on comprenne les consommateurs et les producteurs et les non-producteurs. C'est plus une méthode holistique pour savoir ce que la société attend des producteurs. Et ensuite, il y a le marché. Il y a beaucoup de producteurs qui diraient, si c'est ça ce que les consommateurs veulent, à ce moment-là, il faut que le marché s'en charge. Il faut qu'on nous donne des primes et puis là, on produira de la manière dont ce groupe de consommateurs voudrait qu'on produise. Et les producteurs veulent bien le faire s'il y a des incitatifs et des récompenses au niveau du marché. Ce que je voudrais dire, c'est que le but de répondre aux attentes de la société, c'est le plus difficile des trois buts. Et comment est-ce qu'on le mesure? Comment on sait si on va dans la bonne direction? Également, il y a tout le bruit. Ce bruit qui est fait par les militants, les campagnes publiques qui font un portrait très négatif des pratiques agricoles. Et donc, il y a des améliorations qui ont été faites dans le bien-être des animaux. Les produits qui sont produits sont de très haute qualité. Et donc, les producteurs se retrouvent sur un mode de défense. On critique leur manière de faire. On leur pose des défis par rapport à ce qu'ils font. Donc, ça nous amène au troisième défi, qui est de trouver le juste équilibre. Alors, pour moi, ça résume vraiment le code. Si on regarde le petit os, ça, c'est le code de développement. On essaye de garder tout ça ensemble, mais il y a beaucoup de pression pour que ça brise. Et les gens veulent tous le petit bout qui est en haut. Et ça, c'est le logement détruit. Donc, il y a les producteurs d'un côté et ils disent... On est forcé de faire ces changements et on est inquiet parce qu'on n'aura pas de très bons résultats en ce qui concerne le bien-être des animaux et ensuite il y aura des coûts qu'on ne pourra pas récupérer. Donc même dans la communauté des producteurs, il y a une partie d'entre eux qui disent « qu'est-ce qu'on fabrique à faire un code ?» Et il y en a qui pensent que c'est le processus du gouvernement alors que c'est leur organisation nationale qui l'a demandé. Donc ça, c'est vraiment un gros défi. Et on se demande pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas nous dire quoi faire. Et s'il y a des changements qui sont faits, c'est parce qu'il y a des extrémistes qui nous dictent ces changements. Donc, il faut qu'on essaye d'expliquer comment le code a été développé, quels sont les principes qui le régissent, quelle est la définition du bien-être. Et bien sûr, ça, ce n'est pas facile. Et en plus, bon, là, il y a l'autre côté, mais j'aime pas ça dire que c'est l'autre côté, mais c'est ça ce que c'est. Il y a les préoccupations comme quoi l'industrie ne va pas de l'avant. Et donc, il y a les extrémistes, les militants qui font un très mauvais portrait des producteurs. Donc, il y a beaucoup de peur, évidemment. Les producteurs sont insultés que l'on critique leurs pratiques de manière publique. Et lorsqu'on regarde ce qui se fait autre part sur comment faire ça bien, il n'y a pas énormément de choses positives qu'on peut en ressortir. Donc, alors ici, l'Union européenne, l'approche, c'est par la loi. Donc, il y a eu beaucoup de... ça a pris effet en janvier de cette année. Ce ne sont pas tous les pays qui sont là, ni tous les producteurs. Et donc, ça, il y a des problèmes de non-respect, il y a des pénalités. Ce n'est pas terrible comme portrait. Il y a très peu d'implication des producteurs sur la question du logement détruit. Lorsqu'on parlait de castration un petit peu plus tôt, l'industrie se rassemble pour parler de ces questions de castration de manière volontaire, parce qu'ils pensent qu'on les a laissés de côté et qu'ils n'ont pas pris part aux décisions. Et donc, toute la question du changement en ce qui concerne le bien-être des animaux, là, on parle d'un animal et d'un problème. Donc, est-ce que nous savons que les résultats en bien-être pour les animaux qui ont été déménagés dans des logements collectifs, est-ce qu'il y a eu des bons résultats? Est-ce que leur bien-être s'est amélioré? Et puis, bon, bien sûr, il y a la question du marché protégé aussi en Europe. Donc, lorsqu'ils reçoivent ces directives, ils ne sont pas vraiment à risque. Il ne va pas y avoir énormément d'importations du reste du monde parce que leur marché est quand même relativement protégé. Et ce n'est pas le cas pour nous. Ils ont vu qu'il y avait une incidence négative sur la compétitivité. Et donc, ça a été relié aux directives sur le logement détruit. Si on voit les États-Unis, on a beaucoup de mesures au niveau des États, des annonces au niveau du marché. Il y a la participation des producteurs qui est à la défense de l'industrie, plutôt que d'avoir des tables rondes et de voir comment on pourrait aller de l'avant. C'est un marché libre. Donc, ils parlent du choix des producteurs et qu'il faut que le marché décide. Tim Favory de Tim Horton a dit que pour les États-Unis, c'est vraiment très polarisé. Et on le voit ici aussi avec les ports aux États-Unis. D'habitude, on regarde l'Union européenne, les États-Unis, mais il y a d'autres pays. Et donc, on exporte 70% de notre production. Donc, on doit faire attention à ce que les autres marchés pensent. Alors, les autres pays producteurs comme la Chine, le Brésil, la Russie, eux, ils ne se préoccupent même pas de ça. Le logement détruit n'est pas un de leurs problèmes. Et donc, ça nous amène au Canada. Et l'approche unique, comme quoi on essaie de voir par nous-mêmes sans avoir une loi, sans que ce soit mené par des militants. On veut voir ce qui a du bon sens pour l'industrie. Et donc, ce qu'on examine, ce sont les autres pays. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux? Qu'est-ce qu'on peut éviter de faire comme eux? Donc, je pense que le processus du code, c'est la réponse pour nous. On a déjà entendu ça durant les deux dernières choses. C'est un processus crédible. Il y a la mobilisation appropriée. Et donc, on veut avoir comme objectif une norme nationale et uniforme. On parle de définition et de compréhension commune. Ça, c'est notre gros défi. C'est de parler de ces définitions larges du bien-être animal. Et donc, si on arrive à faire ce qu'on veut, si le petit os ne se brise pas, à ce moment-là, on sera vraiment très, très bien positionné en tant qu'industrie du porc. Et donc, on aura une base très solide pour le bien-être. Et on sera également une balise pour la clientèle et la société. Si tout le monde nous soutient et tout le monde dit oui, ça, c'est la chose qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut savoir pour le bien-être. Ça, c'est un outil très, très puissant. mais on n'est pas encore arrivé là avec le code pour le port. Il y a encore beaucoup de travail à faire et il faut vraiment travailler sur comment on doit continuer à se parler dans le processus du code, mais aussi à l'extérieur du processus du code. Il faut qu'on fasse ce qu'on peut pour obtenir cette compréhension commune. Et quels sont les trois aspects du bien-être? Il faut bien sûr arriver à une résolution sur le code. Du côté du Conseil canadien du port, nous sommes là, nous sommes impliqués, nous voulons que ce code réussisse, surtout sur toutes les questions, mais surtout sur le logement détruit. Et puis, il va falloir nous engager aussi face aux résultats. Il va falloir qu'on ait un plein appui à ce code. Et ça ne sera pas parfait, bien sûr. Mais si tous les gens peuvent le soutenir comme étant ce qu'il y aurait de mieux, à ce moment-là, je crois que ce sera un code qui sera très puissant. Donc ça, c'est un code qui pose beaucoup de défis. Mais ce qui est bon à faire n'est pas forcément facile à faire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions vraiment urgentes? Parce que c'est le moment de déjeuner. Mais merci beaucoup. Merci. Suzanne, il y a une question là-bas. Peut-être je devrais garder ça court. Je viens de l'ambassade de Hollande et je suis le seul de l'Union européenne. Et je voudrais dire que pour la plupart des points, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce serait bien que vous veniez en Hollande pour que je vous montre les choses, parce que vous avez parlé de la preuve scientifique pour l'amélioration du bien-être des animaux. Nous avons la preuve que ce sont les producteurs eux-mêmes qui l'ont voulu, parce qu'ils ont une meilleure relation avec leurs animaux. Et ils ont des fermes plus agréables dans lesquelles travailler. Peut-être qu'on doit expliquer mieux ce que nous faisons en Europe. Et je serais bien content de le faire. Mais il y a des preuves. Mais la question principale, c'est peut-être de l'expliquer aux producteurs de porc. Parce que j'ai remarqué qu'il y en avait qui sont déjà en transition pour les logements détruits. J'ai parlé aux compagnies qui fournissent ce genre de logements de groupe pour les détruits. Ils disent que la demande est en augmentation. Donc, il faudrait expliquer aux producteurs. Et bien sûr, il y a la question du financement. Mais je vous inviterai à venir et je vous ferai visiter les installations. C'est une bonne offre. Alors, mes commentaires sur l'Europe, c'était en général, nous sommes très familiers avec ce qui se passe en Hollande et avec le travail que vous faites. Et je pense qu'il y a eu plusieurs missions pour examiner comment on peut considérer les logements collectifs, etc. Mais il y a d'autres endroits dans l'Union européenne qui ne sont pas aussi avancés qu'en Hollande. Et donc, c'était une question. Est-ce qu'il va y avoir une amélioration du bien-être des animaux, dans tous les cas, avec une conversion forcée? Peut-être, on est peut-être en retard par rapport à d'autres pays, par exemple les pays scandinaves, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont en avance par rapport à nous. La transition est déjà terminée. Et dans ces pays-là, ça a vraiment amélioré le bien-être des animaux, mais également celui des producteurs. Merci beaucoup à Catherine.